Voilà, vous vous souvenez que dans notre parcours, nous étions entre deux discours. Il y avait le discours du chapitre 10, le discours d'Abondition. Il va y avoir le discours du chapitre 18, le discours ecclésial ou communautaire, comme on l'appelle parfois. Et entre les deux, nous étions dans cette construction de la fin du chapitre 13, et puis le chapitre 14, 15, 16, 17. Donc on avait vu qu'ils peuvent être identifiés comme formant chacune une certaine unité, un certain parcours. Alors, je reprends très brièvement au chapitre 14. La question de la foi est introduite, qui sera importante dans toute la, cette section de récit. Ça commence par la perplexité. Quelle est cette sagesse qui lui donne d'accomplir des vœux de puissance, et il ne peut pas en accomplir beaucoup à raison de leur manque de foi. À la faveur de cette question sur les gestes de puissance posés par Jésus, ou je dirais freinés par le manque de foi, il y a la figure d'Hérode qui est convoquée, et on nous rappelle à ce moment-là, un peu comme un retour en arrière, les circonstances de sa mort. Et l'épisode se termine par l'annonce faite à Jésus de la mort du Baptiste. Ce qui amène Jésus à se retirer. Et on va voir au chapitre 14 un premier épisode de multiplication de pains, comme on dit souvent, de partage des pains. On a vu l'arrière-fond de vocabulaire, notamment eucharistique, qui peut s'y voir. Jésus, alors comme le soir est arrivé, c'est toujours au chapitre 14, l'épisode de la marche sur la mer, et de Jésus et de Pierre qui vient à sa rencontre, mais se voit reprocher à un moment donné de douter, de manquer de foi. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? C'était le verset 31. Contre, quand le vent s'est calmé, tous entrent dans une attitude de prosternement, d'adoration. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Vous vous souvenez que cet épisode laissait voir en filigrane deux arrière-fonds, le passage de la mer Rouge en Exode 15, et puis aussi des allusions à ce qu'on trouve à la dernière page de l'Évangile, des connivences avec ce qu'on trouve à la dernière page de l'Évangile, qui permettent de relire l'épisode aussi à la lumière de la présence pascale du Christ à son Église, parfois secouée dans les tempêtes. Alors, Jésus arrive de l'autre côté du lac de Génézareth, on vient à sa rencontre pour le solliciter, touché par lui. Puis au chapitre 15, nous allons avoir l'intervention, puisque là, on était avec les foules, avec les disciples dans la mer. Voilà que commencent à intervenir des autorités, si l'on peut dire, du peuple. On va d'abord avoir les pharisiens et scribes, et puis nous verrons plus loin les pharisiens et sadducéens. Les pharisiens et scribes qui interpellent Jésus sur le fait que ses disciples mangent le pain, prennent leur nourriture sans se laver les mains, c'est l'occasion d'un enseignement sur ce qui souille vraiment l'homme et qui vient du cœur. Finalement, dit Jésus au verset 18-19. C'est du cœur que peuvent venir les mauvais calculs, etc. Puis, pour prolonger avec cette thématique du pain, qui est bien présente, on a une première multiplication des pains, il s'agit ici d'interpeller sur la manière dont on mange le pain sans s'être lavé les mains, et puis la discussion, je dirais le dialogue plutôt, entre Jésus et la femme cananéenne, dans laquelle intervient aussi l'image « Il n'est pas beau de prendre le pain des enfants, de le jeter aux petits chiens », et nous avons vu la puissance de foi de la réponse de la femme que Jésus souligne lui-même et par laquelle il s'est laissé solliciter. Puis, au chapitre 15, un deuxième récit de multiplication, de partage des pains, là où Jésus, de nouveau, implique ses disciples, si vous voulez, avec ici au verset 36 le vocabulaire de l'Eucharistie, rendre grâce, action. Rendre grâce, il fractionna le pain et les donna aux disciples. pour qu'il les distribue. Aussi bien dans la première multiplication des pains, en chapitre 14, que ici intervient le vocable spécifique de fractionner le pain. Vous savez, dans les premiers temps de l'Église, l'Eucharistie était désignée par le terme, c'est la fraction du pain. Dans les actes, ils étaient fidèles, assidus à la prière, à la fraction du pain. C'était la manière initiale de désigner l'Eucharistie. D'où l'importance, petite parenthèse, d'où l'importance liturgique du geste que le prêtre fait en fractionnant l'hostie, qui rappelle cette fraction du pain, je dirais, comme signe de partage. Puis au chapitre 16, voilà que les pharisiens et sadducéens, cette fois-ci, s'approchent pour sonder Jésus en réclamant un signe, et il ne sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas, à la fois comme Jonas appelant à la conversion et Jonas demeurait 3 jours dans le ventre du monstre marin. Puis, de l'autre côté, de nouveau, le thème du pain intervient, les disciples ont oublié de prendre le pain, et Jésus en profite pour gloser sur le thème du ferment aussi. Prenez garde au ferment des pharisiens et sadducéens. Mais les disciples sont en train de réfléchir sur le fait qu'ils n'ont pas pris le pain, ils n'ont pas encore compris que leur pain véritable s'est fait sur lui-même, d'où il leur approche Jean de peu de foi au verset 8. Et à ce moment-là, dans le rappel des deux moments de partage des pains, eh bien, Jésus les amène à comprendre. Alors, ils comprirent au verset 12, au moins, qu'il ne parlait pas de prendre garde au ferment des pains, mais à l'enseignement des pharisiens et sadducéens. Donc la mise en garde contre l'enseignement des pharisiens et sadducéens, je dirais, est l'occasion pour Jésus de rappeler à ses disciples aussi les deux épisodes du partage des pains et des invités. Puis nous terminions, la fois passée, au chapitre 16, par cette belle confession de foi de Pierre à Césarée, à partir d'une question que Jésus pose à ses disciples. Pierre est inspiré. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On a vu la beauté de ce dialogue avec le jeu entre la qualification Fils du Dieu vivant et la promesse de vaincre les puissants du Sheol et de la mort, les portes des enfers qui n'auront pas raison de son Église. Dans ce dialogue de déclaration d'identité respective, toi tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, toi tu es Pierre. Simon, fils de Jonas, mais plus profondément instauré comme pierre et roc sur lequel Jésus va bâtir son Église. Il y a peut-être dans les expressions ici rencontrées deux arrière-fonds d'Isaïe qui jouent, que je vous signale. En Isaïe 22, verset 22, il est dit à propos du choix d'un responsable du temple, le même jour j'appellerai mon serviteur Eliakim, etc., je le revêtirai de ta tunique, etc., et il sera un père pour l'habitant de Jérusalem, pour la maison de Juda, je mettrai la clé de la maison de David, je te donnerai les clés du royaume des cieux, sur son épaule, s'il ouvre, personne ne fermera, s'il ferme, personne n'ouvrira. Certaines parentés avec l'expression tout ce que tu liras eh bien, sera lié, tout ce que tu déliras sera délié dans les cieux. Mais peut-être un autre arrière-fond aussi qui est proche, cette fois-ci on est en Isaïe 28, les versets 14 à 18. Des reproches faits au gouverneur du peuple qui est à Jérusalem. Vous avez dit, nous avons conclu une alliance avec la mort. Il y a une interpellation et le passage se termine. Votre alliance avec la mort sera rompue. Votre pacte avec le Sheol ne tiendra pas. Quand même le vocabulaire de la mort, les enfers intervient ici. Mais entre les deux, surtout, ainsi parle le Seigneur, voici que je vais poser en Sion une pierre de granit. Pierre angulaire, précieuse, pierre de fondation bien assise. Celui qui s'y fie ne sera pas ébranlé. Donc le thème de la promesse de s'appuyer sur une pierre pour ne pas être ébranlé et vaincre les puissances de la mort et du Sheol. Voilà quelques connivences, si vous voulez, thématiques avec ces passages d'Isaïe au chapitre 22 et 28. Après cela, nous le savons, après la demande de Jésus, qui intime à ses disciples de ne le dire à personne que lui est le Christ, on a vu en quel sens, parce qu'il faut d'abord entrer dans une compréhension plus profonde de ce qu'on dit en disant que Jésus est le Christ, de quelle manière est-il Christ, Messie, c'est ça l'enjeu, eh bien Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'éloigner vers Jérusalem. Certains estiment que ce verset 21 du chapitre 16 est aussi littérairement un verset charnière. Une nouvelle étape commence avec la première annonce de la Passion, parce que la formule a l'air d'avoir fonction de répondant à son analogue que l'on trouvait au chapitre 4 au verset 17. C'est la référence donnée dans votre texte. Au moment où Jésus commence son ministère, dès lors Jésus commença à proclamer et à dire « Convertissez-vous, le royaume des cieux s'est approché. » C'est le début de la prédication de Jésus. Et ici, Jésus commença une autre étape à montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'éloigner vers Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour se réveiller. Les annonces de la Passion, comme on les appelle, sont toujours des annonces de la Passion et de la résurrection. On l'oublie parfois. Chaque fois que Jésus annonce qu'il va souffrir, il annonce aussi et le troisième jour, il se relèvera. Mais évidemment, c'est l'annonce de la Passion, des souffrances qui Christ qui interpelle, qui est difficile à entendre. D'où, prenant auprès de lui, Pierre commença à leur avouer. C'est le même verbe. Alors que Jésus commence à montrer à des disciples qu'il lui faut, surtout, vous savez, le verbe « il faut », spécialement chez Saint-Luc, mais ça joue un peu chez Matthieu, désigne un « il faut » qui est de l'ordre de la nécessité du dessein de Dieu. Parce que, Zachée, il me faut demeurer chez toi. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire ici ? Il fallait s'éloigner vers Jérusalem. C'est une nécessité de l'ordre de sa fidélité au dessein de Dieu. Donc, alors que Jésus commence à montrer qu'il lui faut, et Pierre, lui, commence à le rabrouer de son côté. Seigneur, ça ne sera pas pour toi. Et vous connaissez la vive réponse de Jésus, par derrière moi, quand tu mets un scandale. Il fait obstacle. On peut voir la question du scandale revenir plus loin. Ne pas être obstacle pour le petit, pour le frère, pour soi-même. Ici, Pierre est qualifié d'obstacle sur le chemin même de Jésus, dans sa montée vers Jérusalem. Alors Jésus dit à ses disciples, souvent à partir d'un entretien avec une personne particulière, Jésus alors, quand il voit que l'enjeu est vraiment décisif, comme ici, il élargit son propos. Alors il dit à ses disciples, à d'autres moments, c'est alors il dit aux foules, pour se faire comprendre, si quelqu'un veut venir derrière moi, c'est ce qu'il a dit, par derrière moi. Satan, il met un scandale. Par derrière moi. Si quelqu'un veut venir derrière moi, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Plus de déploiement, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, celui qui perdra sa vie à cause de moi. Les souffrances et persécutions, c'est toujours important de ne pas oublier que c'est à cause du nom de Jésus, à cause de moi, à cause de lui, comme il dit. Ce n'est pas la souffrance qui est bonne en soi. C'est à cause de Jésus, on va jusqu'à accepter de souffrir, de perdre sa vie, alors, eh bien, on trouve sa vie. Vous savez que cette phrase a interpellé vivement le futur Saint François Xavier. Il était décisif dans sa conversion. En quoi un homme serait-il aidé s'il gagne le monde entier, mais qu'il ruine sa vie ? Car que peut-il donner en échange de sa vie ? Parce que François Xavier était assez brillant de plusieurs points de vue et il aurait pu très bien réussir à la manière mondaine, mais il a compris que Dieu l'appelait à autre chose. Je ferme la parenthèse. Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges et promettra à chacun selon son avis. Donc Jésus souligne l'importance de ce qu'il vient de dire, se renoncer pour le suivre, en termes de l'enjeu lors de la venue du Fils de l'homme. Il remettra à chacun selon son agir. En vérité, je vous le dis, il en est quelques-uns de ceux qui se tiennent ici qui ne goûteront pas la mort jusqu'à ce qu'ils voient le Fils de l'homme venant dans son royaume. C'est un peu difficile de... Est-ce qu'il fait allusion à sa venue de ressuscité après la passion et la résurrection? Est-ce qu'il fait allusion à ce qui suit après l'épisode de la transfiguration? Certains ici, ils vont voir quelque chose du Fils de l'homme venant dans son royaume. Ou bien est-ce que c'est une phrase qui, à un moment donné, vaudra de toute façon pour une génération. La génération, le jour où le Christ reviendra, il y a des gens, et Saint Paul insiste, il y a des gens qui seront encore vivants, qui seront emportés directement dans la gloire, tandis que ceux qui sont morts auparavant ressusciteront. Eh bien, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront pas la mort jusqu'à ce qu'ils voient le Fils de l'homme venant dans son royaume. Donc c'est un verset un peu difficile d'interprétation, il ne faut pas s'étonner que les spécialistes discutent qu'est-ce qu'il veut dire, ça reste un peu, mais c'est quand même une promesse de, je dirais après ce qu'il a dit de rude, hein, de se renoncer, il va souffrir, etc., qui a provoqué la réaction de Pierre, une promesse quand même de, d'accéder à la vision du Fils de l'homme venant dans son royaume. Et du reste, l'épisode de la transfiguration, alors qui suit au chapitre 17, le quatrième de nos chapitres, hein, 14, 15, 16, 17. Après six jours, Jésus prend auprès de lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Après six jours avant la transfiguration, il y a des décomptes qui peuvent être faits. Comme quoi, l'épisode précédent, c'était peut-être le jour du Yom Kippour, le jour du grand pardon. Parce que derrière l'épisode de la transfiguration, il y a quelque chose qui se profile de la fête juive des tentes. Or, le Yom Kippour, le jour du grand pardon, intervenait six jours avant la fête des tentes. Donc, un des arrière-fonds de cet épisode, la transfiguration que nous connaissons bien, la fête des tentes, fête aussi associée souvent à la lumière, hein, tous ses vêtements devinrent blancs comme la lumière, etc. Jésus prend Pierre, Jacques et Jean, son frère, les emporte sur une montagne élevée. Les six jours peuvent faire allusion aussi à un passage du livre de l'Exode, où il est question justement de la manifestation de la gloire de Dieu après six jours. C'est en Exode 24, 16. Je ne m'y attarde pas, mais je le mentionne, si vous voulez aller voir. Et voilà que se firent voir sur la montagne, dans cette splendeur de sa face qui brille comme un soleil, Moïse et Élie parlant avec lui. Alors Pierre, qui n'est jamais en reste pour ce qui est d'intervenir, Pierre dit à Jésus, « Seigneur, il est beau d'être ici. » Si tu veux, je ferai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Alors qu'il les voit en dialogue, en communication, hein, Moïse et Élie qui parlent avec Jésus. C'est quand même le seul épisode de du Nouveau Testament où on fait pas seulement allusion à un épisode de l'Ancien Testament, mais où il est dit que des personnages de l'Ancien Testament sont présents sur la scène du niveau, hein, à ce moment-là, à travers la vision qui leur est accordée, hein, puisque c'est Jésus lui-même qui va qualifier l'épisode de vision. Il ne dit à personne la vision, au verset 9. Hein. Donc Moïse et Élie sont là parlant avec lui, et à ce moment-là, Pierre dit ben, il faut isoler les trois, ça suffit un peu, chacun sa tente. Et non. Quelque chose qu'il n'a pas compris. Même si, il goûte la beauté de cette révélation, il nous est beau d'être ici. Hein, si tu veux, je ferai trois temps. Comme il parlait encore, hein, notre évangile dit, il ne savait pas trop que dire, tellement il était troublé. Ici, Matthieu ne commente pas. Mais comme il parlait encore, voici une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici une voix de la nuée disant « Celui-ci est mon fils, le bien-aimé, en qui je me suis complu, écoutez-le. » Les éléments de la nuée lumineuse se trouvent aussi dans le passage de l'Exode auquel je faisais allusion. Et la voix qui se fait entendre, elle dit ici, dans le de Matthieu, exactement ce que nous avons entendu au baptême, lors de la théophanie. Ce même assemblage de citations tirées du psaume, « Tu es mon fils, le bien-aimé, c'est le bien-aimé Isaac de Genèse 22, et en qui je me suis complu, c'est le serviteur d'Isaïe. » Et donc, on trouve cela au baptême, et ça nous rappelle, donc au baptême, c'était en 3:17, ici, 17:5, et en, au chapitre 12, vous vous souvenez, on a rencontré aussi une citation assez longue, propre à Matthieu, en 12:18, là où Jésus leur disait à propos de son langage en parabole, afin que s'accomplisse ce qui fut dit par Isaïe, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui s'est conclu mon âme. Donc voyez que c'est arrière-fond aussi, donc d'Isaïe 42 qui a été déjà cité au passage chapitre 12. Écoutez-le, entendez-le littéralement. L'entendant, les disciples tombèrent sur leur face et craignirent fortement. Le petit jeu de contraste, la face du Seigneur qui brille comme un soleil, et les disciples qui, à ce moment-là, tombent sur leur face dans un geste de procédement de grande crainte. Jésus vint auprès, les toucha, comme il viendra après sa résurrection. Réveillez-vous, ne craignez pas. Et relevant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. Jésus seul qui nous dit qu'il va affronter un peu la passion, la solitude. Mais l'épisode aura fait comprendre, puisque la voix est une voix paternelle, celui-ci est mon fils, le bien-aimé, comme on baptême, aura fait comprendre que, comme le dit Jésus en Saint Jean, je ne suis jamais vraiment seul. Même s'il va l'éprouver dans son affectivité humaine et spirituelle la solitude, toujours est-il que son Père sera là, et c'est ce qu'annonce aussi non seulement la gloire à venir de la résurrection, mais je dirais la sollicitude du Père qui va se cacher en quelque sorte, comme dit Saint Ignace, sa présence durant tous les épisodes douloureux de la passion et de la mort de Jésus. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur dit, ne dites à personne la vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme se réveille des morts. Les disciples interrogent, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit d'abord venir ? C'est la fin de vie de Malachie. Répondant, elle dit, Élie vient et restaurera tout, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, ils ne l'ont pas reconnu, mais ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Jésus est en train de parler de Jean-Baptiste et ils vont le comprendre. Alors les disciples comprennent, verset 13, qu'il leur disait cela au sujet de Jean-Baptiste. Mais après avoir dit, le Fils de l'homme va-t-il souffrir par eux ? Dans ces quelques versets, il y a au moins deux choses qui jouent. On a comme une annonce de la passion-résurrection intermédiaire. Il y a les trois annonces formelles, mais je dirais, entre la première et la deuxième, on voit bien qu'il se réveille des morts et il va souffrir, il va mourir, et il va se réveiller. Donc c'est bien entendu, mais les deux éléments d'une annonce de passion et de résurrection sont là. Et puis, Jésus, la question des disciples amène Jésus à lier, je dirais, l'offrande de sa vie à ce qu'il en était du sort du Baptiste, à travers la question sur Élie. Ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Ils ne l'ont pas reconnu. Et bien, de la même manière, comprenez, de la même manière que ce qui est arrivé au précurseur, le Fils de l'homme, il va être reconnu, on va lui faire tout ce qu'on peut. Ainsi, le Fils de l'homme va-t-il souffrir par eux ? Donc Jésus, il comprend, comme il l'a déjà fait précédemment, que le sort du précurseur et à fortiori le sien sont liés. Il redescend, comme il venait auprès de la foule, voilà qu'un homme, s'agenouillant, il dit, Seigneur, prends pitié de mon fils. Je l'ai porté auprès de tes disciples, génération manquant de foi, jusqu'à quand serai-je avec vous ? Portez-le-moi ici. Jésus le rapproua et il fut guéri. Donc, de nouveau, une invitation à avoir une foi plus grande. Et Jésus renchérit à la question des disciples, à l'écart, pourquoi n'avons-nous pas pu le jeter dehors en raison de votre peu de foi? Et l'occasion d'un enseignement sur la foi comme une graine de moutarde qui peut transporter les montagnes. Ce n'est pas pour rien qu'en descendant la montagne, c'est à un fils prend pitié de mon fils qui est relevé comme s'il y avait une annonce du relèvement d'un autre fils. Il vient d'être qualifié très précisément de fils, celui-ci est mon fils, le bien-aimé. Quand ils sont retournés en Galilée, Jésus leur dit, le fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, ils le tueront, le troisième jour il se réveillera. C'est la deuxième annonce plus formelle de la passion, résurrection. Et ils s'attristèrent fortement, toujours après une annonce de passion, résurrection, il y a une réaction, je dirais, de tristesse légitime, voire d'incompréhension, comme c'était le cas pour Pierre, que cela ne t'a bien saigné. Puis la section se termine par une dernière épisode où Pierre et Jésus sont en dialogue. C'est verset 24 à 26, c'est un épisode propre à Matthieu ici. Comme ils venaient vers Capharnaüm, ceux qui perçoivent le 10 drachmes, l'impôt pour le temple, hein, qu'on pourrait payer une fois par an, viennent auprès de Pierre et lui dire « Pourquoi votre maître ne paye-t-il pas le 10 drachmes ?» Il dit « Oui. » Tandis qu'il venait vers la maison, Jésus le devança en disant « Que te semble Simon ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt ? De leurs fils ou des étrangers ?» Comme il disait des étrangers, Jésus lui déclara, de fait, libres sont les fils. Donc, occasion de souligner le caractère filial auquel Pierre est associé. Ce que Jésus va faire, eh bien, c'est une liberté filiale qu'il va partager avec Pierre. C'est pourquoi il va dire, donne-leur le didac, et pour moi, et pour toi, en ayant jeté l'hameçon. Donc, Pierre, tu es un fils libre à ma suite. Bien insister sur l'insistance, celui-ci est mon fils, mais écoutez-le, suivez-le. Bien. Et alors, je dirais, cet épisode un peu curieux, tu trouveras un poisson, mais la pointe porte moins sur le caractère un peu étonnant de la manière dont le quoi payer l'impôt est advenu, que ce que Jésus dit à Pierre en le faisant réfléchir, libres sont les fils, mais afin que nous ne les scandalisions pas, eh bien, donne le didrachme pour toi et pour moi. C'était le dernier passage où Pierre est, je dirais, mis en évidence. Alors vous aurez remarqué que dans chacun des quatre chapitres, il y a un épisode ou une expression propre à Matthieu qui souligne le rôle de Pierre. Au chapitre 14, si je reprends brièvement, c'est lors de la tempête sur la mer, 14-28, c'est Pierre qui dit « Pierre, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne sur toi, sur les eaux, etc. » Et le dialogue qui s'ensuit. C'est pour le chapitre 14. Au chapitre 15, là où Jésus a dit « Les cédés, ce sont des aveugles, conducteurs d'aveugles, ils vont tomber. » C'est Pierre qui demande, verset 15, Pierre lui dit, explique-nous la parabole. La parabole, le langage parabolique de ceux qui souillent les mains ou ne les souillent pas. C'est Pierre qui pose la question. Ça, c'est pour le chapitre 15. Au chapitre 16, c'est bien sûr, vous, qui dites-vous que je suis? Or, répondant, Simon Pierre dit, toi tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Et puis tous les dialogues qui écrivent sur cette pierre. Ça, c'est au chapitre 16, l'épisode qui met spécifiquement en évidence la pierre. Et au chapitre 17, nous venons de le voir. Et même entre les deux, deux fois dans le chapitre 17, la transfiguration, c'est Pierre qui dit à Jésus, il nous est beau, faisons trois tentes. Et ici, c'est un dialogue avec le Père. Donc vous voyez, toute cette section a été quand même unifiée par la problématique de l'invitation à grandir dans la foi. Souvent, on met peu de foi, la pureté, femme grande est ta foi, etc. La thématique du pain, qu'on a vu quand même très présente dans le chapitre 14-15 jusqu'à français, c'est parti. La figure de Pierre, je l'ai dit, et sur la fin est soulignée quand même la problématique de la filiation. Fils de David, fils du Dieu vivant, fils de l'homme, libres sont les fils, etc. Après cette section de récit, nouveau discours, c'est le quatrième des cinq dans l'évangile de Matthieu. Premier, c'était sur la montagne, chapitre 5-7. Deuxième, c'était en parabole, dans Voix Mission, chapitre 10. Troisième, c'était en parabole.
Voilà. Ici, j'ai fait une erreur. C'est bien sûr que je vais dire, non pas le discours dans Voix Mission, mais le discours en parabole du chapitre 13.
Donc, sur la montagne, dans Voix Mission, en parabole, et le quatrième, c'est le discours parfois dit à la communauté ou ecclésial. On va voir en quel sens. Parce que le vocabulaire de l'Église revient. Il est intervenu une première fois. J'ai dit ce mot, il apparaît dans les évangiles que chez Matthieu, au chapitre 16, puis Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et ça va revenir maintenant au chapitre 18. À propos du frère qui s'égare, il faut peut-être aller jusqu'à le dire à l'église. Ce sera au verset 17 du chapitre 18. Le chapitre se structure à partir de deux questions, si l'on peut dire. Une question d'abord qui vient des disciples, c'est le verset 1. À cette heure-là, les disciples venant auprès de Jésus, en disant, qui de fait est plus grand dans le royaume des cieux ? On va voir la réponse de Jésus qui oriente vers l'attention apportée aux enfants, aux plus petits, etc. Et puis, au verset 21, c'est Pierre, de nouveau, visiblement, il est bien présent. Venant auprès de lui, Pierre lui dit, Seigneur, combien de fois mon frère fais-je partir envers moi, etc. Donc, ici, qui est le plus grand dans le royaume des cieux ? Et puis la question de Pierre, combien de fois pardonnerai-je à mon frère qui a péché contre moi ? C'est cette question qui permet à Jésus d'embrayer sur une réponse déployée. Verset 2, appelant près de lui un petit enfant, l'installant au milieu d'eux. Vous voyez que les sous-titres que Jean-Radam Akers donne tiennent compte des mots qui font inclusion, c'est-à-dire qui encadrent le passage. Ici, les versets 2 à 5, c'est l'expression « un petit enfant » qu'il appelle au milieu d'eux. Et ça se termine au verset 5, « celui qui accueillera un seul petit enfant », d'où le sous-titre « devenir comme un petit enfant ». Le sous-titre suivant, « se soucier des petits », il a retenu le terme « petit » ici, parce que c'est là celui qui encadre, verset 6 et verset 14. Vous avez tous le texte sous les yeux ? Non, je crois qu'il n'a pas eu les feuilles. Pour protester, hein, si vous n'avez pas. Voilà. Vous l'avez. C'est le nom d'un texte. Hein. C'est plus facile de suivre le texte. Donc, devenir comme un petit enfant, Jésus le met au milieu d'eux. Vous voyez que l'expression revient en verset 20. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom. Là, je suis au milieu d'eux. C'est le petit enfant qui est mis par Jésus au départ au milieu des disciples. Et puis, à un certain temps, il va dire que lui-même est au milieu de vos versets 20. Il l'installe au milieu d'eux. En vérité, je vous dis, si vous ne retournez pas, n'arrivez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Quiconque s'humiliera comme lui-même, comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand, celui-ci est le plus grand dans le royaume des cieux. Il est en train de répondre précisément à la question qu'ils lui ont posée. Qui, de fait, est le plus grand dans le royaume des cieux ? Alors, pour répondre, il appelle un enfant et il l'invite d'abord à une conversion, pour retourner, devenir comme des petits enfants. Il ne s'agit pas de retourner au sens de retourner en enfance, revenir en enfance, comme on dit, mais il y a quand même une conversion pour réintégrer la spontanéité, la fraîcheur, la simplicité, l'humilité, c'est le terme, hein, s'humilier lui-même comme ce petit enfant, se faire petit, et bien ce celui-là, il sera le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus a glissé de l'expression de la question, la réponse sur qui est le plus grand dans le royaume des cieux à la question de l'entrée dans le royaume, verset 3. Il faut se faire comme un petit enfant pour entrer dans le royaume des cieux. Et le petit enfant joue ici dans ces quelques versets en deux sens. Il s'agit de devenir comme un petit enfant et puis il s'agit aussi d'accueillir un petit enfant en son nom. Il dit par là même accueillir le Christ. Et souvent, dans cette perspective, les deux vont de pair. Pour bien accueillir un petit enfant, pour bien parler aux petits enfants, il faut soi-même avoir gardé ou retrouvé une simplicité d'enfant. Et ça, les enfants le sentent rapidement. Quand une grande personne leur parle un langage qui n'est pas le leur, ou bien quand une grande personne trouve les mots, ou en tout cas l'attitude, pour être proche d'eux, en se faisant lui-même petit enfant, donc les deux ont. Puis la question du scandale, de ce qui fait obstacle, on a vu. Hein, Pierre, il y a une fois, tu mets un scandale. Il s'agit précisément de ne pas scandaliser un seul de ces petits qui ont foi vers moi. Le scandale porte ici sur l'obstacle mis à la foi en Jésus. Eh bien, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui suspende une meuf d'âme qui soit submergée. Hélas pour le monde à cause du scandale, c'est inévitable qu'il y en ait, mais hélas pour l'homme par qui le scandale vient. Ne pas scandaliser les petits, et puis Jésus va avancer dans son propos, ne pas se scandaliser soi-même, ne pas être un obstacle à soi-même pour son entrée dans le royaume. Si ta main ou ton pied te scandalise, arrache-le, etc. Vous connaissez le passage. Et l'enjeu, c'est, eh bien, si ton nez te scandalise, retranche-le, il est meilleur pour toi d'entrer avec un seul œil, mais d'entrer vers la vie. Il s'agissait d'entrer dans le royaume des cieux, eh bien, c'est une entrée en même temps dans la vie. L'expression vient deux fois. Verset 8, entrer dans la vie. Entrer dans la vie au verset 9. Peut-être jeté dans la gêne de feu. Continuer avec le thème du respect des petits, donc ne pas être obstacle, ne pas être objet de scandale pour les petits, ne pas. Se faire obstacle à soi-même sur le chemin de l'entrée dans la vie. Puis il reprend la question des petits, des versets 10 à 14, mais cette fois-ci avec un élément nouveau, à savoir le prix qu'ils ont aux yeux du Père. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits-ci, car je vous dis que les ressentent dans les cieux, regarde la face de mon Père qui est dans les cieux. Les anges sont des intermédiaires entre petit et père. Et puis, au verset 14, à la fin du passage, c'est carrément la volonté du Père dans les cieux, et eh bien, c'est que ne se perde aucun de ses petits. Et c'est là que Matthieu met à profit la parabole des 100 brebis pour justement signifier que Dieu ne veut pas que s'en égare même une seule. Il se réjouit s'il lui arrive de la retrouver. Eh bien, ainsi, la volonté du Père est de ne perdre aucune de ses brebis, hein, qui figurent ici les petits. Cette même image c'est des 100 brebis est l'unique qui a égaré, joue autrement chez Luc. Elle intervient dans la triade chercher et trouver la brebis égarée, chercher et trouver la drachme perdue, chercher et trouver le fils perdu chez Luc, et inviter à se réjouir. Et donc c'est cette même petite parabole de la brebis perdue qui intervient ici chez Matthieu pour insister sur le prix que les petits ont aux yeux du Père céleste. Et puis c'est Jésus lui-même qui commence à amorcer la question du péché du frère. Au verset 15, si ton frère pêche, voyez qu'il y a une expression mise entre double parenthèse, hein, ça arrive parfois dans le texte, envers toi. Ça veut dire que dans le texte grec, ce n'est pas du tout sûr de la fiabilité à cet endroit-là de l'expression envers toi. Donc c'est une question de variante textuelle. Et la double parenthèse dit on peut douter que ça soit présent dans le texte original à cet endroit-là. Franchement, ça, ceci. Donc si ton frère pêche, ceci pour souligner le fait que si ton frère pêche, de manière générale, sans doute, c'est pas spécialement contre toi. Et c'est Pierre qui va introduire la question si mon frère pêche contre moi, qu'est-ce que je ferai ? Ici, c'est la question de celui encore qui s'égare de manière générale. Si ton frère pêche, réprimande-le entre toi et lui seul. S'il t'entend, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'entend pas, tout ceci est un développement dans sa manière de procéder assez typique de Matthieu. S'il ne t'entend pas, prends avec toi encore un ou deux, afin que, et on cite le Deutéronome, c'est sur la bouche de deux ou trois témoins que s'arrête toute contestation, qu'on se mette d'accord, que les choses soient réglées. S'il refuse d'entendre ses témoins, dis-le à l'Église. S'il refuse d'entendre aussi l'Église, qu'il soit pour toi comme l'habitant des nations et le publicain, c'est-à-dire il se met, en tout cas pour le moment, de lui-même en dehors de la possibilité d'être dans l'unité, dans la communion de l'Église. En vérité, je vous dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Ce qui a été dit à Pierre en tu, est dit ici aux disciples, puisque c'est les disciples qui sont près de Jésus et qui sont en train d'entendre ce discours. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, ce que vous lirez sera délié dans le ciel. Puis, de nouveau, je vous le dis, si deux d'entre vous se mettent d'accord sur la terre au sujet de toute affaire qu'ils demanderont, cela leur arrivera chez mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez l'insistance sur le Père céleste, qui reviendra encore plus loin dans la deuxième partie du chapitre. Cela leur arrivera chez mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous voyez comment il joue sur la phrase du Deutéronome, deux ou trois. C'est les deux ou trois témoins, c'est les deux ou trois qui sont assemblés en son nom, et qui se mettent d'accord pour demander une chose au Père Céleste, et si vous mettez les choses ensemble, vous voyez que peut-être il y a des circonstances où les deux ou trois qui se mettent d'accord pour demander quelque chose, ce qu'ils sont en train de demander, c'est la conversion du frère. Peut-être. Mais qui est des occasions où vous vous mettez à deux ou trois à prier pour la conversion du frère. Hein? S'il ne t'entend pas, prends encore avec toi un ou deux, afin que ce soit sur la bouche. Donc peut-être que si tu vas chercher un ou deux pour parler au frère, commencez par prier un petit peu ensemble en disant nous avons une démarche un peu délicate à faire vis-à-vis de telle personne, demandons au Seigneur, enfin ça c'est un commentaire plus spirituel que je fais en mettant les éléments un peu ensemble, deux ou trois réunis en son nom pour prier, et on vient de dire que il y a un problème avec un frère qu'il s'agit d'essayer de ramener sur le bon chemin.
Et au sujet de
toute affaire. Et au sujet de toute affaire, c'est ça.
Aussi.
Non, mais donc c'est plus large, mais ça inclut aussi. Ça va? Alors, venant auprès de lui, Pierre, nouveau intervient, nous allons dans la seconde partie du chapitre. Pierre lui dit: Seigneur, combien de fois mon frère, il a bien entendu Jésus qui disait ton frère, combien de fois mon frère, pas simplement un autre, mon frère, pêchera-t-il envers moi et lui pardonnerai jusqu'à sept fois? Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 70 fois, sept fois. Il y a une allusion à Genèse, au chapitre 4, verset 24, où il est question de Caïn sera vengé sept fois. S'en prend à lui. C'est une menace justement qui veut dissuader de s'en prendre à Caïn qui malgré sa faute doit se faire le signe protecteur de Dieu. Et puis il y a un autre personnage un peu plus loin, Lamech, qui revendique de s'être vengé 77 fois. Donc Caïn 7 fois, Lamech 77 fois, et Jésus surenchérit en disant, je dis moi 70 fois 7, encore plus. C'est une manière de dire pardonne autant de fois qu'il faudra. En raison de ceci, et alors Jésus, pour appuyer son propos exigeant, pardonne de manière illimitée, comme dit le sous-titre de Père Habermas, le pardon illimité. Alors, une parabole propre à Matthieu, tous ces versets-ci. Le royaume des cieux, et il a assimilé un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Vous connaissez l'histoire. Le serviteur est insolvable, il supplie, on lui remet sa créance, mais dès qu'il sort, il saute à la gorge d'un autre qui lui devait pourtant beaucoup moins. Voyant ce qui était arrivé, verset 31, ses co-serviteurs, évidemment, s'attristèrent fortement. Ils expliquèrent à leur seigneur ce qui était arrivé, l'appelant auprès. Son Seigneur dit, serviteur méchant, toute cette dette-là, je te l'ai pardonné, puisque tu m'as supplié, ne fallait-il pas que toi aussi, tu prennes pitié de ton compagnon, comme moi aussi, j'ai pris pitié de toi. Et le Seigneur le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il remette tout ce qui était. Jésus veut faire comprendre, ainsi mon Père Céleste fera-t-il, si vous ne pardonnez pas, chacun à son frère, du fond de vos cœurs. C'est là qu'il, je dirais, termine sa réponse à pied. Ce n'était pas simplement 77 fois cette fois, mais il faut le faire vraiment du fond de son cœur. Alors, je dirais, la finale, qui a l'air d'être rude, hein, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il remette tout ce qui lui était dû, eh bien, a valeur un peu d'avertissement sévère. Souvent, ces passages nous font un peu frémir. Il faut comprendre que lorsque le Seigneur emploie, comme souvent dans l'Ancien Testament, un vocabulaire très menaçant, c'est pour souligner d'autant plus l'enjeu de ce qu'il dit. Mais c'est à prendre quand même au sérieux. Il nous invite vraiment à apprendre à pardonner de plus en plus à nos frères du fond du cœur. Alors, vous voyez que le récit joue sur... Le terme que le maître auquel on doit une dette est qualifié de seigneur, par rapport à son serviteur, mais nous savons que le seigneur peut désigner aussi le seigneur Dieu, Jésus. Donc c'est une parabole propre à Matthieu, et comme je vous disais, intervient encore la mention « Mon Père Céleste, que fera-t-il si vous me pardonnez ?» Si vous vous rendez attentif, on a vu les petits devant la face du Père, Jésus dit chaque fois, souvent, mon Père qui est dans les cieux, la volonté de votre Père qui est dans les cieux. Au verset 19, cela leur arrivera chez mon Père qui est dans les cieux. Et au verset 35, ainsi, mon Père céleste vous fera. Vous vous souvenez peut-être que à propos du sermon sur la montagne, j'avais souligné comment. Notamment avec l'enseignement du Notre Père, mais pas seulement là, la figure de Dieu le Père, faites le jeûne, la prière en secret, non pas pour être vu des hommes, mais pour votre Père qui parle en secret. Il est important, hein, à l'occasion de reprendre cela, dans tous les discours matthéens, en fait Jésus, à un moment donné, plusieurs fois parle de notre Père et de son Père, et en mettant le lien entre sa filiation et notre filisation, qui est d'un autre ordre, mais qui participe quand même réellement de sa filiation. Fin du chapitre, formule de conclusion, transition. Il arriva, quand Jésus finit ses paroles-ci, comme toujours, c'est l'indice de qu'on termine un discours, avec un changement de lieu, qu'il émigra de la Galilée et vint vers le territoire de la Judée, de l'autre côté du Jourdain. Et le suivirent de foules nombreuses, et il le soigna là. Donc nous venons de parcourir ce qu'on appelle le discours ecclésial ou à la communauté, puisqu'il touche des points décisifs pour la communion dans la communauté, savoir faire la démarche vers le frère qui s'égare, prêter attention particulière aux plus petits, éviter de les scandaliser, hein, qui sont pris pour le père, et puis savoir pardonner. S'il n'y a pas l'attention à tous, s'il n'y a pas le pardon dans une communauté, eh bien, elle ne tient pas. La section suivante, dont je vous ai déjà donné les feuilles, sera une section de récit au niveau qui va nous acheminer en route vers Jérusalem. Ça sera la 10e étape, tandis que la 11e va être l'entrée à Jérusalem, une entrée dans le mystère de la Passion et puis de la résurrection. Donc la section suivante, nous serons en route vers Jérusalem. Il nous reste quelques minutes, j'amorce quelques éléments, je dirais, de structuration de l'ensemble. Si vous regardez les sous-titres, le premier sous-titre, le retournement évangélique. Jésus va faire comprendre qu'il y a des attitudes qui impliquent une conversion, et à divers niveaux. Ça va être un retournement dans la question de la fidélité conjugale. Et pour certains, si c'est le rappel, eh bien, demeurer célibataire pour le royaume. Donc la question un peu qui touche, je dirais, la vie conjugale, qui est en rapport quand même avec l'effort chrétien, je dirais, de chasteté. Et puis, l'impossible détachement, là, c'est un autre type de retournement, c'est par rapport au bien. Va, vends tout ce que tu as, et tu entreras dans le royaume des cieux. C'est difficile, c'est impossible pour l'homme à ce moment-là. Et tout le propos sur, il faut pouvoir se détacher de ses richesses pour entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tout à fait étranger à la dimension de la pauvreté. C'était. Et puis, plus loin, on verra comment l'attitude, l'invitation à l'attitude d'obéir à la volonté de Dieu intervient. Alors, je me contente sur la question de la fidélité dans le mariage. Jésus remonte. C'est des pharisiens qui posent la question en le tentant. Est-il permis à un homme de répudier pour tout motif, n'importe quel motif? Et Jésus dira qu'il y aura juste un motif, c'est ce qu'on appelle parfois l'exception matérienne, où il dit, je dirais, si sa femme s'est vraiment mal conduite, au verset 9, hein, celui qui répudiera sa femme, sauf le cas d'inconduite, et on épousera une autre comme un adultère. Ceci dit, donc, on pose la question à Jésus. Jésus remonte à l'Écriture en citant Genèse, et en mettant ensemble deux passages de Genèse, tirés de l'un et l'autre récit. Vous savez qu'il y a un double récit de la création. La première citation, mâle et femelle, il les fit dès le début. Genèse 1, 27. Et puis, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, les deux feront une seule chair. Là, c'est en Genèse 2, 24. Donc, Jésus s'appuie pour remonter en deçà de la loi de Moïse au commandement de la Genèse. Moïse qui est intervenu après ce qui est raconté dans la Genèse et le commandement. Trouvé dans la Genèse, Moïse a légiféré en raison de la dureté de cœur. Il leur répondit, si Moïse a commandé de donner un livret de divorce pour la répudier, ça veut dire au moins un minimum de garantie pour la répudier, et bien c'est une concession en raison de votre dureté de cœur, pour ne pas l'abandonner purement et simplement, au moins vite. C'est comme un moindre mal, pour le dire en vrai. Or, je vous dis, celui qui répudie pour toute pour n'importe quelle raison à l'affaire, est un adultère. Alors, réaction des disciples, si ainsi est la condition de l'homme avec la femme, il n'importe pas d'épouser. Jésus reprend alors, c'est peut-être dur ce que je vous dis, par rapport à ce à quoi vous avez été habitué par la concession interprétative des pharisiens, mais en attendant, il y a une logique nouvelle, il faut un retournement de perspective et qui peut aller jusqu'à être eunuque célibataire en raison du royaume des cieux. Celui qui l'apprenne, qui comprenne. Et puis on lui porte des petits-enfants, il met les mains sur eux et il prie sur eux. Ne les empêchez pas de venir à moi. L'enchaînement entre la question de l'unicité du mariage et puis la réapparition de petits-enfants qu'il bénit, alors que les disciples veulent les rapprouer, n'est peut-être pas innocente en termes pastoraux. On voit bien que aujourd'hui, lorsque des parents se séparent, la première victime, c'est quand même les enfants. Et donc, la prise en compte des enfants, doit aider aussi, être un facteur qui peut aider à demeurer fidèle malgré les difficultés. Si je lis l'enseignement des épisodes. Et puis, on va voir un impossible détachement dans l'ordre du rapport au bien. Donc, chaque fois, Jésus pose une exigence quand même forte, et chaque fois, il y a une réaction d'abord de stupéfaction. C'est d'abord les disciples qui disent si ainsi la condition de l'homme avec la femme, il vaut mieux ne pas l'épouser. Hein? Et puis, par rapport au bien, ça va être ce que Jésus dit au jeune homme qui part en sacristant. Jésus renchérit en disant. Il sera plus facile à un chameau de traverser le chat d'aiguille qu'à un riche de passer par le royaume de Dieu, d'entrer dans le royaume de Dieu. Verset 25, en l'entendant, les disciples furent fortement stupéfaits en disant, alors qui peut être sauvé? Donc à chaque fois, une réaction un peu de perplexité en disant, comment cela va-t-il être possible? Et Jésus, paisiblement, continue et fait comprendre qu'il y a des choses qui vont être possibles avec sa grâce, comme il le dira au verset 26, chez les hommes, ceci est impossible. Or, chez Dieu, tout est possible. Non pas que Dieu va faire les choses à notre place, mais on comprend, avec la grâce de Dieu, ce qui, au niveau simplement humain, vous paraît impossible, il y a des choses qui vont devenir possibles. C'est là. Donc, je vous ai donné les feuilles pour que vous puissiez parcourir ces chapitres, puisque la prochaine fois, nous essaierons d'arriver au sein de la passion et résurrection. Pour avancer dans le parcours.